Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour, c'est Lis des livres sur CFM, votre émission littéraire du mardi à 12h35 et en rediffusion le samedi à 18h. Présenté par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et accompagné de Joël. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour.
De la librairie La Folle Avoine pour une chronique épisode numéro 2 sur Octave Mirbeau. Donc après 3 émissions consacrées au Salon du Livre, le jury des collégiens et des écrivains que vous pouvez réécouter, podcaster ou radio-balader comme vous préférez sur le site de CFM, nous reprenons le fil de nos coups de cœur avec un sujet puissant. Parlons aujourd'hui d'amour. Donc « Amour », un livre de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer, et en BD « Un océan d'amour » de Lupano et Panaccione aux éditions Delcourt Mirage. Alors cette bande dessinée « Un océan d'amour » par laquelle nous allons commencer est une jolie histoire muette sans bulle qui prend place en Bretagne où une bigoudaine très résolue décide de partir à la recherche de son mari, mystérieusement disparu alors qu'il était à la pêche. C'est une bande dessinée très originale, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Elle est écrite par Wilfried Lupano en scénariste, qui a été récompensé déjà en 2014 par le prix du Polar pour Ma Révérence. Et il est l'auteur de plusieurs titres retenus ces dernières années en compétition officielle. Des techniques narratives qui sont très très au point, mais il a eu une pratique assidue du jeu de rôle, et c'est là qu'il s'est forgé un savoir-faire de raconteur d'histoire, ce que Monique va nous expliquer en nous parlant un peu de Un océan d'amour.
Oui, c'est une c'est une belle performance, hein. Je ne sais pas si on peut dire comme ça en littérature, mais c'est quand même un sacré exploit d'écrire un scénario qui raconte une histoire comme ça, avec autant d'amour, de poésie, et une aventure absolument rocambolesque et cocasse de ce petit marin, un petit peu drôle, avec ses lunettes de myope, qui va partir en mer. Et évidemment, on va s'en suivre tout un tas de péripéties pas possibles. Oui, pardon, tout un tas de péripéties pas possibles et qu'on va suivre et qu'on va se créer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que puisqu'il n'y a pas de texte, évidemment, chacun peut se créer son histoire. Et moi, au-delà de l'histoire en elle-même, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le dessin et les mises en page qui sont assez extraordinaires. C'est parfois de tout petits détails, c'est une page à mosaïque, ce sont des pleines pages. Et c'est d'une rare qualité. Les dessins sont crayonnés de façon très, très, très expressive, avec des petits détails. Et c'est vraiment une histoire. C'est à mourir de rire, quoi. Je crois qu'on peut le dire comme ça.
L'amour est présent à chaque page, même si c'est dramatique, quoi, parce qu'il lui arrive des choses impossibles à imaginer. Même, c'est pas toujours du domaine du plausible, d'ailleurs, mais c'est toujours très, très drôle.
C'est pas le ventre de la baleine, c'est le ventre du goldfish, parce qu'il y a quelques mots décrits, il y a capitaine et goldfish. Goldfish, c'est le nom du bateau qui va le trimballer, qui va le prendre au filet, ce marin. Et le capitaine, la capitainerie, c'est le lieu où se rend l'amoureuse du capitaine du bateau pour avoir des informations.
Oui, et alors la bigoudaine, elle va...
Oui, on a oublié le rôle important des sardines aussi.
Voilà, c'est délicieuse.
Des délicieuses.
L'autre mot qui est écrit.
Oui, alors ça fonctionne aussi comme un film d'animation, hein, au niveau de la représentation, parce qu'on a des gros plans insérés dans des grandes images. On a l'impression d'être avec une caméra qui avance, qui recule. Il y a beaucoup de tons sombres aussi par rapport à d'autres BD qui sont beaucoup plus coloré, et il y a le ressort narratif aussi qui joue énormément dans par rapport à...
Oui, c'est plein de rebondissements parce qu'en fait on suit les deux personnages alternativement. Le marin qui se démène avec toutes ses aventures en pleine mer, et puis sa femme qui de son côté essaie de le
de la rencontre de ces deux mondes aussi, cette Bigouden qui est très très attachée aux traditions de son sa vie, qui n'a pas évolué finalement depuis des siècles avec son costume traditionnel, qui part en croisière à Cuba et qui leur apprend à faire des crêpes et qui va dans la cuisine.
Avant d'y aller, il y a deux autres traditions qui sont bien étudiées. C'est d'abord la voyante, puisqu'elle va consulter une voyante, et qui est liée évidemment à la religion, et la Sainte Vierge confirme la voyante, donc tout va très bien, elle peut partir sans crainte, en emportant sa broderie.
Et ce voyage va amener la Bigouden à devenir une véritable célébrité, puisque sur le bateau, tout le monde est armé de son téléphone portable, tout le monde fait des selfies avec la Bigouden, la photo fait le tour du monde, et son mari la découvre sur un écran de télévision, finalement, accompagné de belles jeunes femmes en maillot de bain, en train de faire des crêpes. Enfin,
on passe de goldfish à gold fashion.
Voilà, mais c'est vraiment un livre très, très, très plaisant, très tendre, qui peut plaire à toutes les générations, et que nous on a tous dévoré d'une traite. Et c'est aussi vraiment très surprenant, parce que moi j'avais jamais vu ça, cette histoire de raconter sans bulles.
Il y a quelques bulles quand même, c'est des bulles d'eau dans la mer.
Voilà, il y a beaucoup de bulles d'oxygène, on dirait.
D'oxygène, oui.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que comment il s'appelle, Panaccione. Il n'est pas à son coup d'essai pour ce genre de truc, puisqu'il a déjà écrit une partie de tennis de 280 pages, point par point, sans une bulle. Voilà. Et alors, il dit que l'avantage d'écrire comme ça, c'est qu'il n'a pas besoin de traducteur et qu'il peut être publié partout et que c'est plus universel selon lui.
Oui, c'est à siroter quand même lentement, parce qu'il y a beaucoup de détails, comme disait Monique, et ces détails, il ne faut pas les louper, quoi, parce qu'ils sont importants. Quoi.
Des petites choses très très drôles, effectivement, parfois, ou poétiques, mais c'est plein de tendresse en même temps. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de tendresse pour ce pauvre marin là qui va parcourir le monde pour retrouver son...
Voilà, alors on va
son
écouter C'est la mer qui prend l'homme de Renaud. Je voulais faire une spéciale dédicace à Monique parce qu'elle aime beaucoup cette chanson.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Nous allons parler des amours, donc amour avec un S, le livre de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer. Léonore de Recondo est venue à Villefranche-de-Rouergue en avril 2012 à la librairie La Folavoine pour Rêves oubliés. Ça avait été l'objet d'une rencontre avec Muriel. C'était son deuxième roman et on la connaissait plus parce qu'elle était violoniste et fondatrice de l'ensemble de musique Lyriade. Depuis, elle a écrit Pietra Viva, un roman autour de Michel-Ange, et enfin ce livre, Amour, qui a reçu le prix RTL Lire 2015. Le livre se passe au tout début du siècle à Saint-Féru-sur-Cher, 1908. Et on peut dire que c'est une date pour elle stratégique, parce qu'elle pensait que c'était pas tout à fait encore le XXe siècle. La Première Guerre mondiale n'avait pas commencé, et les femmes étaient encore corsetées, et sous l'emprise de leur éducation, de la religion, du mariage et de plein de contraintes sociales qui les empêchaient d'être libérées, entre guillemets.
Un corset multiple.
Voilà. Donc au tout début du siècle, à Saint-Féru-sur-Cher, Anselme de Boisvoyant, qui est notaire, soumet au droit de cuissage la jeune bonne Céleste. Il a été élevé comme ça. Et quand on veut assouvir dans le Cher les désirs de la chair, c'est à la maison que ça se passe. Anselme est veuf et sans enfant, il s'est remarié avec Victoire depuis 5 ans. Les deux familles se sont arrangées. C'était une aubaine pour des parents qui ont 7 filles et qui désespèrent de leur trouver à toutes un mari. Ils ont passé une petite annonce et ce cher Anselme est venu se présenter. Tout s'est très bien arrangé, c'était parfait. Sauf que mademoiselle Victoire, elle sait pas très bien qui elle est. Elle n'a pas été élevée dans la connaissance d'elle-même. Elle sait pas bien qui est son corps, elle se trouve pas très belle.
Elle ne s'est jamais vue nue.
Oui, oui. Alors ça c'est un grand moment du livre, je crois, cette phase où elle se regarde dans le miroir, elle se découvre un corps complet. Parce qu'en fait elle connaissait d'elle-même que des bouts, elle se regardait sans se regarder, et voilà. Et d'un seul coup elle se regarde vraiment nue dans le miroir, parce qu'elle se mettait jamais nue. C'est un bon moment du livre, ça. Donc lui est notaire et elle ignorante, si on peut dire, entre guillemets, pareil que pour le carcan ou le corset. Elle est élevée dans un catholicisme atavique, dans le carcan d'une bourgeoisie de province, fait de convenances et de non-dits familiaux, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-dits dans ce livre. Le premier livre que Victoire lira après son mariage est Madame Bovary, c'est pas rien. Elle trouve le livre un peu sot, mais elle s'arrête médusée sur le passage où Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie, par les mots de félicité, de passion, d'ivresse. Effectivement, elle en est très loin. Donc nous avons là tous les ingrédients pour un roman, je dirais, élégamment subversif. Parce que Léonore de Recondo écrit avec beaucoup de douceur et d'empathie pour ses personnages.
De tendresse, je dirais aussi.
Oui, voilà. L'histoire est subtile et elle fait la part belle à la libération des corps. C'est ce qui est très beau. La grossesse de la petite bonne, elle est révélée dans la chambre de Victoire, lorsqu'elle la surprend en train d'essayer les corsets. Et cette mise de... revêtir un corset, c'est une mise à nu... brimer le corps, c'est briser le corps, mais c'est en même temps le dévoiler. Et lui donner une forme peu naturelle, certes. Et Victoire, elle comprend que sa bonne est enceinte en la voyant mettre ce corset. C'est tout le paradoxe de l'histoire. Bon, là-dessus, je vais un peu dévoiler la suite, même si la suite... Moi, je dirais que la suite n'était pas convenue. Ça va s'emballer. L'histoire s'emballe à ce moment-là.
Alors, je pense qu'elle a donné quelques indications pour prévoir la suite. Un lecteur attentif peut le voir, en particulier quand Anselme cherche à savoir le mystère qu'il y a dans sa famille et comment ça se fait que son père a écrit une lettre assez mystérieuse à sa mère. Et on se rend compte là qu'il y a une histoire de paternité qui le concerne, lui.
Oui, alors ce qui est intéressant, donc dévoiler le reste de l'histoire, finalement, ça n'a pas grand intérêt.
C'est pas la peine d'en parler, donc.
Donc on va arrêter là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Léonore de Recondo, à partir de ses thèmes, elle va aborder des thèmes de notre époque, c'est-à-dire la gestation pour autrui, l'homosexualité, l'amour monoparental et les problèmes de filiation dans des familles. Parce que là, on va se rendre compte finalement qu'il y a des problèmes de filiation des deux côtés.
Il y a des placards.
Voilà,
il y a des
placards.
Fantômes dans les
et
placards.
Et des fantômes dans les placards. Donc elle va là aborder la deuxième partie du livre, beaucoup plus sensuelle. On va avoir un feu de joie des corsets. On va voir aussi apparaître ce fameux couturier Poiret, qui a été un ami des femmes, si on peut dire, puisqu'il a enlevé le corset de ses défilés de mode, qu'il a été le premier à le faire. C'est donc ce livre amour, il est à la fois classique et il se laisse aller à de grandes envolées très contemporaines.
Oui, c'est vrai que le fait de... c'est une espèce d'auto-da-fé, un acte de foi, avec les corsets, c'est-à-dire cette bourgeoise qui tout d'un coup peut comprend qu'il est possible d'enlever ses corsets, mais elle ne se contentera pas d'enlever celui-là. Elle va jeter tout ça au milieu de la cour et faire un grand feu de joie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une scène particulièrement forte du livre et c'est un moment de basculement aussi.
Voilà. Et le livre va donc continuer sur de manière assez lyrique finalement, mais chacun va respecter la partition qu'il a jouée jusqu'au dénouement final. Léonore de Recondo est musicienne et si elle fait de Céleste une héroïne digne de la Traviata, je pense que c'est pas pour rien.
Et Victoire est une pianiste terrible.
Voilà, qui joue la sonate au clair de lune comme une folle pour verser les pleurs de son enfant. Donc on va écouter All You Need Is Love des Beatles pour enchaîner après avec Joël qui nous parlera d'un journal d'une femme de chambre qui n'est pas sans faire écho à ce premier livre de Léonore de Recondo.
You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Octave Mirbeau, c'est un écho avec le livre de Léonore de Recondo, Amour. Le premier écho, c'est le prénom de l'héroïne. Dans le journal La Femme de Chambre, elle s'appelle Célestine. Et dans Amour, elle s'appelle Céleste. Donc il y a un premier petit rapport. Bon, on va pas faire parler du journal d'une femme de chambre, parce que je pense qu'on pourrait y passer une émission. Moi, à mes yeux, ce livre est un véritable chef-d'œuvre. Et je crois que je suis pas le seul à le penser, puisqu'il a déjà été mis en cinéma, porté au cinéma, non seulement par Jean Renoir et par Benoît Jacquot récemment, il vient de sortir, même sur Villefranche. Il faut pas oublier Buñuel, avec la grande Jeanne Moreau dans ce film. Donc c'est vraiment un livre extraordinaire sur la société de fin 19e, la société, la bourgeoisie essentiellement, mais vue de l'intérieur. La femme de chambre, elle a un point stratégique d'observation. Elle est partout, elle est à la cuisine, elle est dans les chambres, elle est dans les salons, dans les appartements, elle sert à table quand il y a de la visite. Donc elle est susceptible de tout savoir, et Mirbeau en profite magistralement pour raconter toutes les situations avec un réalisme extraordinaire. C'est vrai que parfois on peut penser qu'il force le trait. Je crois que
il le force. Oui. C'est quand même très cru par moments. Et puis il laisse peu place à des sentiments sincères. Je crois que c'est le plus dérangeant dans ce livre. C'est que tout le monde a des intérêts à droite et à gauche et personne n'est naturel et sincère.
Il y a des scènes de grande sincérité, il les détaille. Moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié sa façon de parler de cet amour, le véritable amour de Célestine. C'est Georges, c'est Monsieur Georges, c'est-à-dire un de ces personnes qu'elle va servir pour la grand-mère de Georges, qui l'embauche. Et là, avec ce Monsieur Georges, elle se laisse prendre au piège de l'amour. Et donc, il va mourir dans ses bras. Et après, il faut qu'elle s'en sorte, quoi. Elle est extrêmement pragmatique.
Je suis pas tout à fait convaincue du piège de l'amour, là, mais...
Elle est vraiment terrible, cette scène-là.
Oui, elle est terrible. Je crois qu'elle est. Mais Mirbeau, de toute sa vie, a été partagé entre deux choix, l'idéalisme et le pragmatisme. C'est toute sa vie. Et là-dedans, c'est
oui,
bien.
Oui, mais je pense que Célestine, c'est ça.
Oui, voilà. Mais c'est la vie de Mirbeau. C'est pour ça que, Victoire lisait Madame Bovary et que Flaubert, qui a bien connu Mirbeau, disait Madame Bovary, c'est moi. Je crois que Mirbeau peut dire Célestine, c'est moi. Et tous les aspects de ce livre, y compris des scènes qui sont reproduites, sont des scènes qui sont arrivées à Mirbeau. Donc je crois qu'on va parler essentiellement du journal d'une femme de chambre en vous disant d'abord je suis heureux d'avoir remis Mirbeau à l'ordre du jour puisque aussi bien Fred que Monique ont lu ce journal et je crois qu'il mérite le détour même si vous ne ressentez pas trop d'empathie pour Célestine pour le moins.
Oui, j'avoue.
Voilà. Bon, deux autres mots concernant Mirbeau. Je crois qu'il faut quand même rappeler que c'est lui qui a mis en place l'Académie Goncourt. C'est-à-dire, il a pu continuer le testament de Edmond de Goncourt, puisque Jules était mort précédemment, qui mettait en place cette académie pour découvrir des auteurs qui sans argent et qui avaient du talent. Et c'est l'objectif de ces 12 couverts, et à chaque fois d'essayer de chercher. Mirbeau a amené, comme je disais la dernière fois, Knum Tansun, Marie-Claire et le journal de Marie-Claire, l'atelier de Marie-Claire, c'est lui aussi. Et d'autres et tant d'autres. Et c'est un amateur de peinture. Je voulais dire aussi simplement qu'avant le TNP, il a amené le théâtre populaire, il a même fait l'acteur et il a fait des pièces extraordinaires. Une pièce qui se joue encore et qui s'intitule Les affaires sont les affaires, ça aussi, c'est d'actualité.
Voilà. Donc on va écouter,
Merci.
Money is money. Joël nous avait choisi Money is Money, parce que les affaires sont les affaires, selon Mirbeau. On vous conseillera aujourd'hui aussi de relire le journal d'une femme de chambre, dont on a légèrement débattu avant d'aller voir le film. Nous vous avons présenté Un océan d'amour de Lupano e Panaccione aux éditions Delcourt Mirage, cette BD sans bulles. Amour de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous attend la semaine prochaine pour une autre idée livre. Au revoir.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.